Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie, fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir sur le plateau de Pleine Lucarne à l'issue d'une semaine un peu calamiteuse quand même pour le Stade Rennais. 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué, une certaine régression quand même dans le jeu et régression également au classement. On va revenir sur le match d'hier qui s'est joué à Monaco, qui pour le compte était un match plutôt intéressant, surtout en première période, avec Christophe Penven de TVR. Salut Christophe.
Salut Vincent.
Avec Pierre Lecomte de l'Académie du même nom. Salut Pierre, salut. Ça va bien?
Ça va bien, salut Vincent.
On est avec Thomas Rassouli de Stade Rennais Online, autrement dit SRO. Salut Thomas.
Salut Vincent.
Et puis Laurent Frétinier, le chef de tous les sports dans le département, pour oui. Quelques temps encore.
Bah oui, j'espère.
Tant mieux.
Salut Vincent.
Salut Laurent. Mais on ne voulait pas démarrer cette émission sans avoir une grosse pensée pour Nicolas Holweg, le président du Stade Rennais. Il l'a été pendant un an. Entre mars 2020, lorsqu'il a été nommé, et 2021, on a appris ce midi qu'il était décédé des suites d'une longue maladie, en l'occurrence le cancer, qu'il n'avait pas non plus caché. Et tous ceux qui l'ont côtoyé ici et dans les clubs où il a travaillé, que ce soit à Monaco, que ce soit à Nancy où il était retourné, eh ben garderont un souvenir ému et un souvenir sympathique de cet homme droit, intègre, et qu'on a eu, nous, pour le compte, beaucoup de plaisir à côtoyer, n'est-ce pas, Laurent?
Oui, oui, bah, alors, c'était, moi, quand je suis arrivé à Rennes, j'ai pris une fonction là, de chef, m'occuper du Stade Rennais, c'est lui venait d'arriver quelques temps avant, et franchement, c'était, alors, on est de la même génération, en plus, alors ça crée une forme de lien, c'était vraiment quelqu'un de, à qui on pouvait avoir, quelqu'un d'humain aussi, quelqu'un de droit, de bienveillant, alors, qui savait aussi hausser le ton quand il n'était pas content, mais ça fait partie du jeu et c'est très bien. Un grand professionnel aussi, qui connaissait toutes les arcanes du football. Franchement, c'est très très triste.
Ouais, c'est une grande perte. On a une pensée évidemment pour sa famille, pour ses proches. Il sera resté qu'un an, mais il aura un peu marqué quand même l'histoire du Stade Rennais. C'est lui qui a lancé le projet PIF 2. Ouais. Je crois que c'est lui qui a lancé aussi la section féminine. Donc voilà, il y a une vraie marque. Et donc, on va regretter Nicolas Holweg. On va regretter aussi ce qui s'est passé hier après-midi au stade de Louis II et on va regarder tout de suite le résumé. – 6000 personnes, hein, c'est l'euphorie là-bas à Monaco, 6000 personnes dans le... et l'euphorie, elle est sur le terrain pour Monaco dès la 3e minute. Fofana rate l'immanquable, on aurait dit Guirassy à Nancy. Derrière, on remet ça avec Golovin, intervention de Mandanda. Sur le corner qui suit, une première tête de Tino Kerrer, manchette incroyable de Mandanda. Ça surprend derrière Ben Yedder qui ne peut cadrer. Et les Rennais, bon, avec une passe évidemment mal ajustée de Kalimuendo, mais derrière, le défenseur se marche un peu dessus et Guiri ne peut finir. L'action la plus nette, la plus incroyable, c'est cette reprise et cette envolée du gardien Maïki qui va détourner sur sa barre. Cette reprise de Terrier, regardez, c'est magnifique. Toujours 0-0. Guiri, une fois. Bourigeaud, deux fois. Et le gardien, à chaque fois, pour faire opposition. Est-ce qu'il va arriver? Ce qui doit arriver, va arriver. Relance pour Bourigeaud. Très mauvais contrôle de Bourigeaud. Derrière, ça ne suit pas vraiment. Matuziwa oublie totalement Akliouche, qui marque... un but impossible à arrêter pour le gardien. Il y aura quand même, avant la mi-temps, cette percée en solitaire de Guiri qui va échouer sur le petit filet. Et puis en deuxième mi-temps, on joue depuis une minute. Et Stéphanie Frappard sort le carton rouge pour Martin Terrier. Pas grand-chose à dire, on y reviendra quand même peut-être tout à l'heure. Terrier est expulsé et pendant un gros quart d'heure, les Monégasques vont jouer en supériorité numérique sans vraiment en profiter. Là, c'est Seydou qui se rate. Derrière, mauvaise relance dans l'axe et derrière, l'envolée avec la main opposée magnifique de Mandanda. Un gros quart d'heure parce qu'après, un deuxième carton jaune pour Tino Kerrer sur cette faute, hein, sur Kalimuendo. Kalimuendo qu'on retrouve un peu après, et alors qui fait ni un tir ni un centre sur un ballon de Désiré Doué. Une belle frappe de Blas et le gardien est encore là. C'est le seul éclair hein, dans la grisaille de l'entrée de Blas. Et puis cette action, on y reviendra aussi longuement parce que celle-là a fait un peu débat. Mais regardez bien, il tombe, personne ne réclame rien. Chez les Rennais, personne ne réclame rien. La VAR appelle quand même Stéphanie Frappard qui dit qu'après avoir regardé, bah pour la première fois de sa vie, elle se déjuge et elle ne siffle pas de pénalty. Ça se termine donc sur ce score de 1 partout. Et regardez le classement de 1-0, pardon. Oui, ça aurait pu faire un partout. Vous avez raison dans la salle de me le dire. Voilà, il y a des gens qui sont un peu à l'arrêt. Nice est à l'arrêt, Lens est à l'arrêt, Marseille est à l'arrêt, Rennes évidemment est à l'arrêt, mais regardez, il y a quand même Reims qui vient s'immiscer et Lyon qui se rapproche, puisque avec l'impunité dont bénéficie la Cazette sur tous les terrains de France, ça permet quand même à son équipe de remonter. Je vous ai fait rire dans le résumé. Allez, on va regarder le côté optimiste. Cette semaine, quand même, un peu optimiste. L'optimisme, c'est que rien n'a bougé dans le classement. Pas grand-chose, en tout cas.
Bah, quand même, Reims a pris un point. Et non, c'est Lyon qui revient. Va falloir regarder en plus dans le rétro, quand même.
Oui.
Ça, c'est pas... Et avec Lyon qui a une sacrée dynamique.
Oui, mais Lyon va jouer les 4 premiers dans les 4 prochains matchs.
Oui, mais oui, peut-être.
Alors, la Cazette n'aura pas tout le temps des pénaltys ou des choses qui arrangent. Qu'il arrange, quoi.
Certes, mais bon. Maintenant, il faut aussi regarder, compter sur les... Parce que même si ça avance pas devant, Rennes est toujours 9e et non 7e, 6e ou 7e. Donc à un moment, il va falloir prendre des points. Et dès samedi prochain, je pense que la victoire est impérative.
Le calendrier est plus facile, le calendrier qui arrive
moi,
pour Rennes.
Moi, je le disais, même si Rennes a perdu à Monaco, après Strasbourg, etc., je me dis ça... Le championnat n'est pas terminé. Et confirmation, parce que le calendrier est un peu plus facile, je suis d'accord. Il y aura des Nantes, il y aura Toulouse déjà pour démarrer, Nantes,
Brest et
Metz. Donc voilà, c'est des matchs.
Avant, Lens et
moins compliqué que.
L'année dernière, je vous rappelle.
C'est oui, non, mais
son deuxième.
Hein. Oui, mais c'est le Brest qui a failli faire match nul contre Metz.
En tout cas, je suis un intervalle optimiste, vous savez bien, et j'y crois évidemment encore à la Coupe d'Europe.
Oui, mais oui, bon, alors, vous y croyez tous, là, autour de la table, à l'Europe?
Oui.
Pierre,
oui.
Enfin, si on disait non, ça serait moche quand même.
Un peu comme vous, 70%. Quoi.
Ouais. Mais non, quelle place?
Au sixième, j'ai annoncé depuis le début.
Sixième.
Mais après, ce qui est sûr, c'est que les quatre équipes de tête sont beaucoup trop loin et que ça va jouer entre six équipes qui sont maintenant très regroupées. Faut quand même creuser pour trouver de l'optimisme, hein, pour répondre à votre première question, parce que c'est pas une bonne semaine du tout, c'est pas un bon résultat de prendre 0 points à Strasbourg, le fameux match raté. Et sur le calendrier, je trouve que cette édition de la Ligue 1 montre que c'est extrêmement dur à prédire, quoi. Le Stade Rennais s'est vautré contre Lorient, alors que c'était un match tout fait, a pris 0 points contre Strasbourg, alors que c'était censé être un match où il prendrait des points. Et les autres équipes aussi ont des résultats extrêmement irréguliers. On a parlé de Brest tout de suite. Brest gagne encore ce week-end, mais ils se font rattraper en toute fin de match par Metz. Et on se dit, est-ce que Metz va prendre un point à Brest? Lille gagne contre Marseille. Marseille qui s'effondre aussi. Lyon arrive à retourner une situation complètement improbable. Lyon, ils étaient quand même derniers avec 7 points il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc je pense que toutes ces équipes-là, entre ces 6 équipes, ça se jouera.
Ça va être
passionnant. La différence sur le calendrier, c'est que Metz, quand on va jouer Metz, ils seront déjà en Ligue 2. Là, vous jouez Toulouse, ils sont quasiment maintenus. C'est pas pareil que de perdre contre Lorient qui vient chercher des points, qui reste à 15 derrière. Ouais. Strasbourg, tu perds là-bas, ok, tu rates ton match. Mais voilà, ils sont au combat pour le maintien. Voilà, là, il y a des matchs où peut-être psychologiquement, tu rencontres peut-être
des équipes qui lâcheront pas non plus, clairement.
C'est sûr que Brest va pas lâcher, non,
quel pari.
On s'en fout, quel pari. Ils ont pris un point à Paris, ça reste Paris quand même, quoi. Même une équipe B.
Ouais. Et Nantes, la victoire à la Beaujoire, qu'il faudra aller chercher, c'est pas, enfin voilà, qui joue le maintien, qui a reperdu, donc.
Oui. Mais qu'aura pas Abline et qu'aura pas Schemert, le Suisse qui a.
Et pas la Brigade Loire.
Mais bon.
Et pas sa Brigade Loire.
Et peut-être pas sa Brigade Loire. Pierre. Et
il faudra aussi regarder à 6 matchs de la fin les équipes qui se déplacent 4 fois et qui ne reçoivent que 2 fois. Si tant est qu'elle est meilleure, par exemple, à domicile ou à l'extérieur. Oui. Mais il faut faire attention à ça parce qu'on n'est pas toujours sur du 3-3.
Mais une chose est sûre, alors tout le monde croit encore à quelques chances d'Europe, même si ce n'est pas non plus l'euphorie, c'est en tout cas pas 1, 2, 3, 4, ce qui était quand même les ambitions annoncé ici à votre place de Florian Maurice, c'est peut-être même pas 5. Ça veut dire 6 peut-être et 7 en croisant les doigts et en espérant que Paris va gagner la Coupe de France. Ça fait quand même beaucoup de 6 parce que si on veut être pessimiste, D'abord, il n'y a plus le droit à l'erreur, vous êtes bien d'accord ? À domicile, 6 matchs, il faut combien de points ? Il faut combien de points pour être européen ?
Pour moi, 12, ça peut passer. 12, ça peut passer sur 18.
4 victoires sur 6 matchs.
Ouais, ça peut passer.
Oui, ça, je pense qu'avec 4 victoires. Mais 4 victoires, ça veut dire qu'il faut faire 100 fautes à la maison. Donc, battre Lens, battre Brest et aller prendre les 3 points à Metz. Quoi.
C'est pas gagné, les amis.
Non,
hein,
mais c'est pas fait. Et il faut savoir aussi que la dernière journée est à Reims, qui, pour une fois, va jouer, n'est pas dans le ventre mou, va jouer quelque chose peut-être jusqu'à la fin, avec un entraîneur, un jeune entraîneur qui a toujours su impulser quelque chose et qui s'en va. Peut-être que les joueurs vont vouloir jouer pour lui à Reims. Enfin, c'est la bouteille à l'encre, en fait, dans cette affaire. Mais c'est vrai que ça va être passionnant.
Et l'autre chose qui fait qu'il n'y a pas de quoi non plus être très optimiste, c'est que la dynamique rennaise est extrêmement défavorable.
Ah, bah là, ouais. Oh, retour de trêve, oui, clairement, elle est plus bonne là. C'est un coup d'arrêt cette défaite à Monaco. Clairement, c'est 3 défaites. Julien Stéphan a beau essayer d'entretenir un discours positif, mais la dynamique quand vous perdez 3 fois en une semaine, 3 fois à l'extérieur, certes, mais sans marquer une seule fois, élimination en Coupe de France, 2 défaites en championnat, elle peut pas être bonne la dynamique. C'est pas possible.
Un match calamiteux, Strasbourg, 0 tir cadré. Paris Saint-Germain, 2 tirs cadrés, mais là quand même 7 tirs cadrés. On a eu tombé sur 2 gardiens extraordinaires aussi. Hein. Il y a eu des occasions.
On en vient au match, si vous voulez bien, le match de Monaco. 3 défaites en une semaine, donc vous le dites. 3 défaites très différentes. Vous le dites aussi. Laquelle est la plus dure à digérer pour vous des 3?
Strasbourg. Strasbourg, quand vous avez une statistique avec 0 tir cadré, c'est une horreur à regarder.
Je pensais pas que vous auriez dit ça.
Oui, en plus, Rennes était meilleure équipe et Strasbourg pire équipe en 2024. Il fallait prendre des points à Strasbourg, même si ce n'est un point, relancer cette dynamique.
Oui, mais on peut passer. Pour moi, celle d'hier est plus dure à digérer.
Non, mais la défaite à Strasbourg, elle est logique, archi-logique. Alors que hier, Monaco, on ressort avec une frustration, se dire, il devait au moins accrocher un petit point sur ce club du Stade Rennais.
Une équipe qui n'avait pas gagné à domicile depuis début décembre.
Ouais. J'aurais peut-être plus mis le match de Paris. En fait.
Premier de la Ligue 1. Enfin, ça...
J'aurais peut-être plus mis le match de Paris. C'est vrai que.
Ah bon, vous, c'est le match de Paris non, plus j'ai dur à digérer.
J'ai dit peut-être. Je pense que
arrêter de faire des peut-être, monsieur Rassouli. Faut dire des trucs vrais.
D'accord. Alors je vais vous dire Paris parce que je pense qu'on néglige énormément ce que c'est que de se faire éliminer en demi-finale de Coupe de France. Même nous, dans notre préparation de match et globalement dans l'effervescence qu'on a donnée à une demi-finale de Coupe de France, on y était avec Christophe. Il y a aucun moment où on s'est dit, ah, oh, c'est une demi-finale de Coupe de France quand même. Parce que tout le monde a un peu acté le fait que tu te déplaces à Paris, c'est bon, au tirage, c'est réglé, c'est fini. Mais c'est quand même une perspective de titre.
Mais t'es déjà pas dans une bonne dynamique quand tu vas à Paris.
Tu te fais éliminer en demi-finale d'une compétition. Et pour moi, c'est la fin de quelque chose. Et d'accord. Derrière, sur la préparation de Monaco, je pense que c'est beaucoup plus important que ce qu'on veut dire.
D'accord.
Et le cadeau fait à Ramos dans le temps additionnel sur ce pénalty.
Ah, en championnat.
En championnat. Sam aussi, moi, pour moi, c'est quelque chose de.
Oui,
qui m'est resté là.
Il faut préciser, ok, la dynamique n'est pas bonne depuis 6 matchs, c'est ça, à peu près. Pas très bonne, il n'y a qu'une victoire sur les 6 derniers matchs, il me semble.
Quand tu mènes 2-0 à Lille et que tu fais attraper 2-2, c'est pas bien.
Il n'y a aussi rien qui tourne en ta faveur. Alors je sais bien que le facteur chance, si on mise là-dessus, c'est un peu ridicule. Mais entre Lille, Paris, même hier, ils sont pas vernis comme nos Rennais, je trouve.
On a vu un bon match de foot. En tout cas, une bonne première entre deux équipes qui se livrent.
Oui, voilà, deux équipes avec du jeu ouvert, deux super gardiens, beaucoup d'occasions, je ne sais plus combien de tirs et d'occasions après 20 minutes ou 25 minutes. Fofana aurait pu marquer dès la troisième minute, je crois, ou troisième ou quatrième. Et c'était la première mi-temps très, très agréable à voir. C'est le football qu'on aime. Et bon, après, on préfère quand ça gagne, évidemment, pour Rennes. Mais voilà, faut des buteurs efficaces.
C'est ça. Justement, je vous pose la question. Sur le match d'hier, quelles ont été les faiblesses rennaises criantes, ou en tout cas celles qui vous ont...
Dans chacune des 3 lignes. Il y en a en attaque, parce qu'ils ne sont pas efficaces du tout. C'est encore une attaque qui tricote un peu trop. Ça ne tire pas en première intention. Au milieu, ça a manqué totalement d'agressivité. Ils se sont bouffés par le milieu monégasque. Et derrière, n'en parlons pas. Derrière, on connaît la défense déjà depuis un certain nombre de semaines. Elle n'est pas à la hauteur, tout simplement.
D'accord, ok, en toutes les lignes. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a marqué, peut-être, Thomas ?
J'ai vu, bon, on va pointer un peu des cas individuels, mais moi j'ai vu un joueur en grande difficulté, Alidou Seydou, sur le côté droit.
On y viendra tout à l'heure. Ouais.
Et même Azor Matusiwa au milieu de terrain, que moi j'ai trouvé en retard sur quasiment tous ses ballons.
Des recrues de mercato, donc d'hiver. À 26 millions.
Honnêtement, c'est peut-être pas l'attaque que je mettrais en premier parce qu'on l'a dit tout de suite, ils ont cadré 7 fois. Là, il faut quand même le dire, il y a eu un très grand gardien en face, ils ont quand même cadré 7 fois sur 7 fois. voilà, vous êtes peut-être en droit, ça ne joue pas forcément à grand-chose. J'attirerais plus notre attention sur ce qui s'est passé derrière, en défense et juste devant la défense avec ces milieux-là.
C'est vrai, où le milieu n'a pas été assez agressif, au moins dans la première demi-heure.
Ce qu'on constate sur cette équipe, et moi je fais presque un... Il ne faut pas faire de bilan, mais au moins de cet effectif-là, et on l'a vu entre le Paris et Monaco, quand vous jouez des équipes qui sont dans le top 4, votre ambition en début de saison, le niveau, on va dire, Ligue des Champions, ce que vous allez chercher, vous êtes en difficulté, dans l'intensité du match. Au début de match, Monaco, il vous marche dessus. Intensité, le pressing, ne pas savoir sortir du pressing, la qualité technique. Vous êtes une équipe qui est à votre place, malheureusement. 9e, en tout cas entre 7 et 9, c'est la place du Stade Rennais aujourd'hui.
Eh ben oui.
Dès que ça s'élève un peu le niveau, le Stade Rennais est en difficulté.
Ah oui. Moi, j'ai trouvé que par exemple, oui, il y a dans le défi physique, par exemple, Jacobs prenait tous les ballons de la tête, c'était un vrai relais, un vrai pivot, ce que Rennes ne fait pas. Il n'y a plus de jeu de tête, et Terrier le faisait avant, on le voit beaucoup moins. Déjà, je trouve que c'est quelque chose qui est important dans un jeu justement d'une équipe qui veut se projeter vite. Et justement, dans transition contre transition, je trouvais que Monaco se projetait plus vite que Rennes. Ah bah oui. Et Pierre parlait de que ça tricotait un peu. Ça allait sans doute pas assez vite. Alors il y a eu ce tir de Terrier en première intention, malheureusement qui rentre pas. Mais c'est il y a pas une classe d'écart comme mercredi entre Monaco et Rennes, parce que la deuxième mi-temps a un peu atténué les choses. Différence. Mais il y a quand même, on voit comme dit, Rennes n'a pas le niveau Ligue des Champions. Quoi.
Parce que quelquefois on a reproché un manque de caractère à cette équipe. Là, hier, globalement, même à 10 contre 11, on ne peut pas dire que ça a lâché.
Ça, c'est le grand débat un peu de la saison. Cette équipe, elle a du caractère, elle n'a pas de caractère. Elle a du caractère contre Marseille, elle a du caractère en deuxième mi-temps, à 11 contre 10, enfin à 10 contre 11, de rester dans le match, etc. Donc, mais il est hyper fluctuant, cette oui. équipe.
Et
contre des équipes
Monaco,
un peu moyennes, je trouve qu'elle manque de caractère. Dans les équipes face à des matchs à enjeu, elle peut montrer du caractère, mais là, c'est le niveau qui est défaillant, comme des fois hier en première mi-temps ou contre le PSG. Voilà, elle est hyper fluctuante, cette équipe, très difficile à juger d'un match sur le terrain.
Elle est super friable, en fait. C'est-à-dire qu'elle est fluctuante, vous l'avez dit. Ils finissent bien, mais ils n'ont pas tellement d'occasions non plus. C'est-à-dire qu'ils dominent. À l'inverse, ils ont beaucoup d'occasions en première mi-temps, mais dans une première mi-temps où défensivement, ils ont pris le bouillon sur chaque offensive monégasque. C'était beaucoup plus dangereux côté Monaco que côté Rennes. Donc elle est vraiment extrêmement instable.
C'est la fin de match qui m'a fait mal. Enfin, les 25 dernières minutes, Rennes n'a aucune solution que de donner le ballon à Désiré Doué en disant « Vas-y mon gars, regardez la fin du match ». Alors la fin du match, ça m'énerve.
Ça, c'est une technique, on sait bien, il le sait.
95 minutes.
Non mais oui, je l'excuse. Et il s'en veut, beaucoup.
Oui.
Mais bon, et regardez la toute dernière. Allez, tiens. Non.
Mais Vincent, c'est ce qui arrive. Qu'est-ce qui se passe sur les 30 dernières minutes? Qu'est-ce qui se passe sur les 30 dernières minutes quand Monaco est aussi réduit à 10?
On donne tout à Désiré Doué en disant vas-y mon gars.
Monaco fait bloc. Et donc Monaco devient un bloc
même
bas.
Pas.
Quand même, ils font plus bloc que Rennes sur la fin de période, la fin de rencontre.
Rennes, dans ces cas-là, on se demande où ils peuvent réussir parce que vous venez à juste titre, et je le partage, ce point de vue aussi, de dire que quand ça joue bien vite avec des équipes de haut de tableau, bon, le match est ouvert et on voit finalement un Stade Rennais joueur, assez chatoyant finalement, même s'il ne réussit pas. Et par contre, alors à l'inverse, quand il tombe sur des équipes bloc bas qui sautent le milieu de terrain avec des ballons très longs, on a une telle défense lente avec un Omari qui est trop lent. Depuis qu'il est à Rennes, il est trop lent. Son attaquant qu'il a en charge, il suffit qu'il le prenne sur une balle longue dans le dos. Vous le revoyez plus, ça fait but.
C'est ce qu'on a vu, oui. On va en reparler. Le manque de caractère, bon, je vais montrer les petites... Rennes ne retourne jamais un match non plus.
Une fois.
Non, ça, c'est
une
vrai.
Fois. Ouais. Une fois dans la saison, c'est pas beaucoup. Et pourtant, vous allez l'entendre, Julien Stéphane, finalement, à l'issue du match, il n'a pas grand-chose à reprocher à son équipe.
On a raté un match, voilà, c'est le match de la semaine dernière. On a raté un match en 3 mois. Celui-là, il n'est absolument pas raté. Je pense une capacité à faire ce qu'on souhaitait faire dans l'intensité, dans les mouvements, dans la prise de risque, dans la prise de profondeur aussi. Et faire un vrai match contre Monaco, qui est aussi une équipe très intense, très verticale, avec beaucoup de très bons joueurs dans le domaine offensif, avec un jeu aussi atypique. Et on voulait rendre le change aujourd'hui. Je pense qu'on l'a rendu, plus que rendu même. Voilà, plus que rendu. C'est pour ça qu'on est déçu du résultat. Mais il reste 6 matchs, 18 points en jeu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont encore se passer d'ici la fin de saison. Et si on est dans la continuité en termes d'intensité, de contenu jusqu'à la fin de saison, en reproduisant ce genre de match, alors on va prendre un certain nombre de points encore.
Alors sûr, on ne peut pas lui donner tort sur il reste des points à prendre et il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On est tous ici persuadés que ça va être super excitant la fin de saison et les six derniers matchs. Mais le début de son analyse tout de même. On a fait un seul mauvais match en trois mois.
Oui, il sera Lorient là déjà.
Déjà, mais après il sera
match à Milan. Mais
ce sera la même chose qu'à la fin de la saison. Peu importe les résultats, il aura la même communication. Mmh. C'est sa communication à Julien Stéphan, c'est d'être extrêmement positif et de ramener et de pointer ce qui a été très positif sur la rencontre.
Donc mais c'est pas ce que les gens veulent entendre, je pense aussi.
Mais je pense sincèrement qu'ils s'en foutent ce que les gens veulent entendre. C'est lui, c'est ce qu'il veut transmettre, c'est de la confiance
à
son collectif.
C'est de la kinothérapie pour les joueurs.
Mais oui. Parce que les joueurs, ils se rendent pas compte qu'ils ont raté leur match contre Lorient, qu'ils ont raté.
Non mais où je le défends, c'est que comme on enterre tout d'un match sur l'autre. De toute façon, vous êtes battu avec certains, je pense,
sur les réseaux sociaux,
avec les gens qui enterrent tout. Il fallait changer l'équipe, il fallait tout changer, il fallait pas prolonger le Julien Stéphan, enfin des trucs un peu ridicules de ce genre-là. Moi, je trouve que il a raison son discours de positiver quand même un peu et de dire effectivement, si vous refaites face à une équipe de Monaco qui est quand même deuxième ou troisième du championnat, une genre de prestation, il y a quand même moyen d'aller gagner les matchs qui arrivent. Oui, c'est ça qu'il faut dire.
Oui. Mais il est un peu dans le déni. Un seul match mauvais, c'est pas vrai. Il y en a plus que ça.
Il n'est pas dans le déni, il est dans la gestion. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un... Cette équipe-là, on l'a vu, c'est pour moi ces deux dernières saisons, elle supporte pas la pression. C'est une équipe qui globalement a du mal avec dès qu'une pression est trop accrue. On l'a vu avec un objectif Ligue des Champions par exemple. Dès qu'il y a eu des moments où ça se tendait un petit peu,
ça nous ramène toujours au mercato. Hein,
mais peut-être.
Et au choix des hommes.
Laissez-moi finir. On en parlera après de votre mercato.
Oui, Monsieur Rassouli, d'accord.
Après,
très bien.
C'est une équipe qui supporte pas la pression et donc. Partant de ce constat, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à la fin de la saison? Vous pouvez pas changer de joueur, le mercato c'est pas maintenant. Donc vous continuez avec une équipe, avec de la kinothérapie si vous voulez, mais c'est la seule arme que vous avez jusqu'à présent. Donc il s'agira d'en reparler cet été quand vous pourrez avoir votre mercato et changer tous les joueurs de l'effectif si vous voulez. Mais à l'heure actuelle, il s'agit surtout de garder cet effectif focus sur quelque chose, un effectif qui a priori gère globalement mal la pression et qui, selon ce qu'on vient de dire, doit gagner 4 matchs sur 6.
Bon, donc
quelques critiques, ça fait jamais ça fait mal, pas de mal de dire sportif de haut niveau.
Ça fait pas de mal de dire.
Ouais, mais ça, c'est ce qu'il dit publiquement. Moi, j'espère qu'il leur dit aussi autre chose quand ils sont entre quatre
murs. Il doit pouvoir dire à la presse et aux gens qui sont en face de lui. Ouais, les gars, c'est vrai, on n'est pas sur une bonne dynamique.
Mais pourquoi Bruno Genesio le faisait pas?
Mais il est parti.
Mais non, mais il faisait la même chose. Regardez, il avait le même effectif, il faisait la même chose globalement. Est-ce qu'il condamnait son équipe quand son équipe faisait un mauvais match? Est-ce qu'il s'enflammait?
Il disait la même chose, les regrets, c'est le Havre.
Ouais, bah voilà.
Mais c'est pas ça que.
Mais je pense qu'il s'adapte aussi à ça, à l'effectif qu'il a, au type de joueur dans son vestiaire qu'il a. Alors peut-être qu'il les secoue un peu plus quand c'est dans le vestiaire, mais publiquement, c'est la même stratégie.
Vous voudriez qu'il dise quoi, Pierre?
Je suis un peu d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que faudrait que... Vous savez, quand il dit des choses publiquement, les joueurs le savent au niveau du vestiaire parce qu'ils ne sont pas sans écouter les médias, lire la presse. Ils prennent les guillemets de leur coach. Ils savent très exactement ce qu'il a derrière la tête. Alors qu'il leur dit sensiblement, avec un peu plus de vigueur sans doute, les mêmes choses au vestiaire. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que piloter une équipe, il faudrait avoir un doctorat en psychologie. Hein.
Ouais, non, mais c'est vrai. Mais moi, je trouve, là, j'étais un peu surpris par son discours de fin de match. On ne va pas épiloguer plus que ça. Il y a des lacunes, on l'a dit. J'aurais qu'on revoie le but de Monégasque, vous me disiez un petit peu. Alors là, voilà, les relances courtes. Derrière, le ballon saute un peu. Ouais. Vous remarquerez, le ballon de Houx saute un peu derrière. Énorme erreur de Bourigeaud. Et puis, personne ne suit. Voilà. On a un gars entre deux joueurs. Regardez, sous cet angle-là.
C'est attentif, quoi.
Regardez, au milieu de terrain, il y a deux joueurs en noir là qui bougent pas.
Et puis ils ont marqué sur leur très grand point fort à Monaco, c'est la projection vers l'avant, la prise de profondeur. Voilà, la perte du ballon, vous avez vu la passe aveugle de Minamino, elle est magnifique. Et derrière, ça se projette. Et voilà, Rennes est en réaction.
Rennes, on a la phobie du ballon long. Bon, je veux pas jouer long à Rennes. Le gardien, là, il y a deux coupables sur le but. Il y a le gardien dans sa relance courte et puis il y a l'erreur de Bourigeaud. Les deux cumulés, vous prenez un but bête. Un but qui n'aurait pas eu lieu si le ballon était allé chercher au-delà de la deuxième ligne.
Bah, il faut quand même. Parce que personne ne prend les ballons de la tête, Pierre.
Quand on a Terrier, là. On a Terrier qui les reprend. Il faut qu'il joue sur Terrier.
Mais pas tout le temps.
Très souvent.
Là, il n'y a pas un énorme pressing devant lui. Je veux dédouaner Mandanda là-dessus.
Regardez le nombre de... Quand Terrier touche une balle, en général, il la remet bien de la tête. Hein, un Kalimuendo, un Guiri à côté, il lui remet des ballons intelligents de la tête. Bon, toute la période où Terrier n'était pas là, il ne pouvait pas jouer devant parce que Kalimundo, je l'ai dit souvent ici, est incapable de choper une balle haute. C'est comme ça, ça, il a des qualités par ailleurs, mais il n'a pas celle-là. Donc, maintenant qu'il a Terrier, il faut aller le chercher.
Mais si on faut veut pas jouer, faire sa but comme moi, ça. Alors, je suis entre vous et
je suis pas un fanat des relances courtes systématiques, mais celle-là, c'était pas.
Ancienne génération, je vais dire ça, vous êtes plus. Vous avez, voilà, c'est un peu nouveau, c'est vrai, depuis. Mais je le dis toujours depuis.
C'est pas une histoire de génération. Ah,
depuis non, mais depuis Guardiola, il est le plus grand entraîneur du monde depuis 10 ans, forcément, toutes les équipes s'inspirent de ça, de sortir de derrière. Et moi, je défends cette façon de faire. Je sais bien qu'il faut prendre des risques, il faut avoir la qualité technique pour le faire au milieu de terrain. On a une équipe du Stade Rennais qui a la qualité. Si Mourinho vous dit que c'est pas un joueur technique, je comprends rien. Donc voilà, ils ont la qualité technique pour sortir de derrière. Ok, c'est des risques à prendre. Et là, ça ne paye pas. Et le Stade Rennais en a pris, oui, des buts. Toutes les équipes prennent des buts comme ça. Je défends quand même par rapport, je veux pas, deux sorties de balles sur trois en jeu long. Bah alors, on arrête le foot. Enfin, pas pour moi.
Christophe Prenneven en 2024.
Ok. Bon, on sera pas tout à fait d'accord. Mais là, oui, mais d'habitude, je suis d'accord, ça, Pierre. Mais là c'est vrai que là, il y a une erreur individuelle énorme.
Quand c'est comme ça.
Oui, et puis d'un joueur qu'on commet tellement peu souvent. Alors, c'est sûr que.
Il n'est pas dedans, Bourigeau. Depuis la trêve, là.
Et c'est sûr que Stéphane, là, il se retrouve avec ses deux meilleurs joueurs, en tout cas, ses deux cadres les plus flamboyants. Un qui fait une boulette et qui amène un but et l'autre qui prend rouge, il n'est pas aidé là, c'est sûr.
Il n'est pas soutenu. On se posait des questions aussi, il y avait une interrogation sur le match, l'arbitrage. C'était Stéphanie Frappard.
Il n'y a pas un jingle.
Non, mais je vais essayer de l'inventer pour la saison prochaine.
Je vais peut-être choquer les gens, mais je pense qu'elle a peut-être fait le meilleur match de sa saison en tant qu'arbitre.
Il était cohérent son match, il n'y a aucun problème.
Très cohérent. Et effectivement, vous m'avez fait la remarque, Vincent, je suis d'accord avec vous.
Elle a dégagé autre chose dès le début.
Elle avait déjà le sourire, disons, bizarrement.
À la sortie des vestiaires, elle souriait. Elle parlait aux gens.
J'ai dit, qu'est-ce qui lui est arrivé à Madame Frappard? Et derrière, je trouve qu'elle tient son match. Vous pouvez me parler du pénalty, on va revenir dessus, j'imagine. Bah moi, il n'y a rien qui me choque dans son arbitrage sur ce match.
Ok, les expulsions, on va les revoir, les deux expulsions. Elles sont logiques.
Rouge direct et deux fois jaune. Ouais. Rien à dire.
Là, voilà. Rouge, voilà, on a un seul ralenti là sur.
Jaune est presque un peu sévère.
Non.
Oh, c'est une petite poussette.
Voilà. Donc là. Après, voilà, Terrier, il va prendre combien? Il va prendre combien, Terrier?
1+1 peut-être.
Ouais, je pense 1+1.
1+1, 1+2.
Parce que c'est de la maladresse.
En même temps, si la casette n'en prend pas.
Il est bien haut le pied, donc 2, c'est pas exclu non plus.
Et là, le deuxième, c'est très bien joué de la part de Kalimundo.
Ah, c'est une prise de cash. Hein. Enfin, de catch, oui, je veux dire.
On peut saluer pour une fois la bonne attitude des Rennais.
Oui, qui savent tous.
Exactement, qui savent que Thilo Kehrer, Thilo et pas Tino.
Oui, c'est vrai, Thilo.
Un carton jaune déjà, Thilo vient de faire pression.
Oui,
Thilo, les cidres aussi bretons qui sont très bons.
Et là, c'était sa première faute.
Non, c'est la première, peut-être qui était peut-être un peu dure, mais il coupe une action. Donc, les deux y sont.
Et donc, Julien Stéphane, on va le retrouver, parce que lui, il dit il y avait pénalty. À la 75e, il y avait pénalty sur Désiré Doué. Il est sûr de ça. Il s'en prend pas souvent à l'arbitrage. Mais là, on écoute une nouvelle fois Julien Stéphane.
On a une décision, à mon sens, plus que litigieuse aussi à un quart d'heure de la fin, qui aurait dû faire tourner les choses dans un temps très fort pour nous. Ça faisait un moment qu'on poussait. Pour moi, c'est très clair. Voilà. Pour moi, c'est très clair. En haut et en bas. Et surtout en bas. Voilà, surtout en bas. Mais c'est très clair pour moi. Ouais. À partir du moment où la VAR appelle l'arbitre, c'est qu'il y a un gros doute quoi, sur la décision initiale. Voilà. Donc après, elle a revu, elle a jugé qu'il n'y avait pas pénalty. Bon. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Mais je n'ai pas d'autre choix que... malheureusement, de constater ça.
Voilà.
Moi, je trouve je suis pas d'accord avec Stéphane, parce que je trouve que, pour moi, il n'y a pas péno, mais il a raison de le faire, parce que jamais Rennes on dit que Rennes ne fait pas de pression sur les arbitres, sur la direction de l'arbitrage, on dit que c'est un club trop gentil. Et ben, il a raison de le faire. Faut dire, ben là, on s'est fait, il y a eu Paris, il y a eu là, même si là, je suis pas d'accord sur les faits, mais je pense qu'il faut un peu montrer les muscles, d'accord. Ou les dents, ouais. Ou les crocs, enfin, ce qu'on veut, mais pas tout, mais voilà, faut aussi parfois montrer qu'on est un club qu'il faut se faire respecter.
Donc il n'y a pas pénalité.
En tout cas, je comprends qu'il y ait débat, parce qu'à partir du moment où la VAR appelle, c'est qu'elle estime qu'il y a pénalty et que Mme Frappard estime que non. Donc déjà, il y a débat avec Julien Stéphane, il y a débat entre nous, il y a débat entre la VAR et l'arbitre. Donc voilà, ça pose question comme tout le temps, ce genre de situation. Moi, pour moi, il n'y a pas pénalty.
Pierre ?
Non plus.
Il n'y a pas pénalty. Elle a sifflé le même contre la Lacazette, enfin en faveur de la Lacazette. Ben, si elle a fait pour la casette.
Qu'est-ce qu'elle a fait sur votre canapé à ce moment-là?
Qu'est-ce qui s'est pas.
Un bon, un cri.
Moi, ce qui me fait dire qu'il n'y a peut-être pas pénalty, c'est qu'aucun Rennais ne le réclame.
Ouais, c'est pas la première fois, mais c'est...
Ben voilà.
Mais même ouais, Doué...
Même Doué, il y a rien.
Il réclame la touche derrière.
Oui. Doué a une intelligence... Enfin, il devient de plus en plus truqueur. Hein. Faut faire attention quand même, parce qu'il ne faut pas qu'au niveau du corps arbitral, il ancre cette image-là, hein, parce qu'il va se faire sanctionner durement. Hein. Il a tendance à tomber sans aucune raison. Mais là, il est à droit quand même, parce que, je ne sais pas si vous remarquez, il met sa jambe droite derrière la jambe gauche du défenseur monégasque. Comme s'il y avait obstruction de la part du défenseur monégasque. Mais quand vous regardez le jeu de jambes du monégasque, à aucun moment il ne fait de l'anti-jeu, il ne veut pas faire une opposition caractérisée au geste. Et pour moi, il n'y a pas pénalty, okay. C'est tout.
Mais vous non plus.
Non, je trouve qu'il n'y a pas... En fait, je trouve qu'il cherche, pour rejoindre un peu ce que dit Pierre, c'est que Julien Stéphane nous dit il y a faute en haut et en bas.
En haut et en bas.
Ouais, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout faute en haut et que c'est limite parce que Doué agrippe en haut.
Et on le revoit.
On voit qu'il cherche un petit peu en bas à s'empaler. Parce que si vous regardez que le bas, franchement, les deux interprétations, elles sont possibles. Mais si vous regardez en haut, Doué, il va au contact et il agrippe comme ça Fofana pour essayer de tomber.
Enfin, une petite prise quand même, là.
Je trouve qu'il la cherche. Mais non, c'est lui.
Il rejette le bras que...
Bon, il n'y a rien, c'est pas ça qui... Mais c'est étonnant, le discours de Julien Stéphane.
Mais quand c'est la période, quand ça ne veut pas tourner, ça ne veut pas tourner. Voilà, ouais, il y aurait eu pénalty, on n'aurait pas écrit au scandale, évidemment.
Quant au carton rouge de Terrier, je vais faire juste une remarque. On s'aperçoit que les joueurs qui sont au départ un peu lents, Terrier est un peu lent au départ, c'est dans sa nature, c'est dans son jeu, il est comme ça.
Nonchalant,
voilà, le terme exact. Eh bien, quand vous avez une blessure des croisés, vous perdez... progressivement, vous perdez au moins pendant un an 4 ou 5 dixièmes sur l'inertie de votre geste. Là, il est sanctionné parce qu'il ne retire pas suffisamment tôt sa semelle, tout simplement, sur le tibia de l'adversaire.
Ah oui.
Et ces 4 cinquièmes, là, un joueur qui est blessé au croisé, il lui faut au moins une année à une année et demie pour les retrouver.
Docteur Lecomte, on vous remercie de votre analyse et nous allons tout de suite regarder les notes des joueurs. C'est très bizarre parce qu'on a dit que c'était plutôt un match intéressant. C'est la même moyenne qu'à Paris la semaine dernière. En coupe. Et donc on voit Mandanda une nouvelle fois meilleur homme du match. Évidemment, vous ne pouvez pas faire quelque chose si votre meilleur homme, c'est le gardien à chaque fois. Théâtre Truffert, honnête. Désiré Doué et Kalimundo aussi. Mais on l'a dit.
Je
hein.
pense que la moyenne devrait être plus haute que le match de Paris à mes yeux. Mais voilà, et je pense qu'il y a aussi les gens qu'on notait. Pour moi, le premier, une grosse frustration de sortir de ce match en te disant wow, « c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour pas ramener au moins un point ?» Et donc, des fois, on est peut-être pas un peu dur.
Peut-être. Mandanda, j'ai trouvé moins constant collectivement quand même. C'est-à-dire qu'à la différence du match contre Paris, où le niveau était peut-être un petit peu moins bon, là, il y a eu plusieurs individualités qui sont un peu passées à côté de leur match, que ce soit Bourigeau, Matuziwa, Seydou. Donc, c'est peut-être ça aussi qui raccourcit la
moyenne. Mandanda, on regarde quelques-uns de ses arrêts. Vous vouliez en parler, Laurent?
Il devrait peut-être sortir de sa retraite internationale, parce que le troisième gardien des Bleus qui est prévu pour l'Euro est moins fort que ce Steve Mandanda là et sans doute plus, et il est plus influent, en tout cas Mandanda est plus influent auprès de, même s'il serait sans doute pas une garde, il jouerait pas, mais enfin, il est franchement impressionnant. En plus, on l'a entendu tout le match à Monaco, c'est comme s'il y avait le Covid. C'est tout le match, on l'a entendu. Ça prouve que il est ce leader de jeu, d'équipe, et parfois sans doute un peu lâché par son équipe et un peu agacé sans doute.
Ce qui est moche, c'est qu'il ramène aucun point.
Ouais.
Non mais oui.
Oui, mais c'est la faute des autres. Quand même, oui. Il y a un moment. On peut pas dire il ne ramène aucun point. C'est mais... au pluriel. Il fait
des exploits et des grands matchs qui ne rapportent rien.
Si Terrier marque un partout, il aurait ramené des points parce qu'il aurait sauvé la baraque.
Oui.
Ah voilà, c'est ça qu'il faut dire.
Oui,
faut
non, mais je
aux attaquants pas aux gardiens.
Eh ben je vous laisse le dire et je suis d'accord avec vous. Attaquant en panne, on l'a dit. C'est inquiétant quand même. Moi, je redis, la dernière demi-heure où on balance le ballon au petit Doué en disant bah, « débrouille-toi, fais-nous quelque chose », on va revoir toutes les actions manquées.
Ouais. Mais quand Rennes joue contre une équipe en bloc, bas ou médian comme vous voulez, mais une équipe en bloc défensivement, elle est très très peu efficace. C'est ce qu'on a vu récemment et ça s'est encore vu contre Monaco, quand Monaco était réduit à 10.
Regardez le manque de réalisme.
Elle n'a pas de plan B cette équipe, c'est ça qui est un peu inquiétant justement.
Non,
parce que
ça c'est pas ça.
Comme
ça, c'est la fin.
Elle veut jouer en transition, qu'elle aime le jeu, quand ça s'ouvre. Et dès que ça se referme, Elle a plus de mal. Et Julien Stéphane a toujours eu du mal dans sa première ère. On se rappelle, c'est son équipe qui s'était devenue du handball tourné autour de la surface. Et il n'y avait pas de solution. Alors là, à sa décharge, c'est pas des joueurs qu'il a choisi. On peut le répéter.
Ouais, ça, faut le dire aussi.
Mais
il en a au moins choisi deux au mercato d'hiver.
Ouais, pas dans ce secteur-là, du coup.
Non. C'est vrai, pas dans ce secteur-là.
Et sans doute que le fait va quand même refaire du... La retour de le fait va faire du bien, je pense.
Ah bon ?
Ouais.
Non, je dis ah bon. J'espère.
Vous pensez.
Mais non, arrêtez.
Comme Terrier sera suspendu, Doué va pouvoir rejouer à gauche où il a fini le match.
C'est
franchement,
c'est...
Fabien
Thé.
Mais non.
Alors que bon. Fabien Thé, la grande époque Fabien Thé, il y a
et
deux
de
ans.
De temps en temps, il faut varier. Aujourd'hui, les gardiens ne captent plus le ballon, ils le boxent. Et souvent, les buts sont des buts de renvoi des points. Du ballon par le gardien. Pourquoi ne pas essayer quand on ne peut pas, quand on a un bloc bas et qu'on ne peut pas trouver la faille, pourquoi ne pas essayer à répéter
à
aux entraînements les tirs des 25 mètres, des 30 mètres
c'est un truc
et
aussi.
Les attaquants qui suivent. Il faut varier le jeu. Voilà, faut pas essayer de rentrer dans le but avec le ballon.
Terrier frappe de loin.
C'est vrai que Rennes tire pas assez, voilà, ça, là-dessus je suis d'accord.
C'est évident.
Et puis quand il tire,
tire pas assez des 20 mètres ou voilà.
C'est pas possible les tirs anémiques qu'on a. C'est pas possible.
Truffert
en a fait un, Kalimuendo en a fait un, des tirs de cadets. Non, sans rire. Vous êtes d'accord avec moi. On peut dire que Rennes a cadré 7 fois, mais
c'est peut-être pour ça qu'ils tirent pas de loin, c'est qu'ils en ont pas la capacité.
Oui, mais encore un problème de recrutement. On en revient toujours.
Alors le recrutement, il sait le faire.
Le recrutement, la défense. Alors voilà, la défense. On a l'impression, depuis septembre dernier, que tous les lundis, et peut-être même deux fois par semaine quand il y a des matchs dans la semaine, on redit la même chose sur cette défense et on s'aperçoit finalement qu'on radote, qu'on a quatre joueurs qui se valent tous, Omari ou Guéladoué et Seydou. Qui sont interchangeables et tous dans le moyen.
C'est mauvais signe, on tape jamais sur le même. Alors donc, ça veut dire que collectivement, sur la ligne défensive, il y a quand même un gros problème.
Là où je suis d'accord, dans la constance sur la saison entière, les deux joueurs fiables pour moi sont Théâtre et Truffert, et les autres ont eu des passages. Omari, il a eu le passage où le Sardin a enchaîné les victoires. Moi, c'était un élément clé et fort aussi de la défense. Mais c'est ça depuis le début de la saison. Seydou, c'est pareil. Enfin, Seydou, il vient d'arriver. Guéladoué, c'est pas l'assurance tout risque. Et Christophe Leroux, évidemment, pareil.
Pas plaider, mais.
Qu'est-ce que je suis censé dire ?
Mais sur Seydou, vous voulez dire Seydou ?
Je voulais dire Seydou. Non, j'ai trouvé qu'il a fait un très mauvais match, donc je vais pas le défendre.
J'ai pas dit avocat de la défense, j'ai dit avocat général. Donc,
d'accord.
Accusateur. Fouquier-Tinville.
Oui, alors. Non, déjà, je relativise ce que je vais dire par le fait que ces joueurs sont arrivés au mois de janvier, donc il faut quand même leur laisser du temps au Stade Rennais de manière générale. Mais ce qu'on voit de la part de, pour moi, d'Alidou Seydou et de Hazor Matuziwa, si vous voulez faire un package des recrues. C'est techniquement pas très bon quand même. Ce sont des joueurs qui techniquement sont assez limités depuis qu'ils sont arrivés dans leur utilisation. Que ce soit Matuziwa devant la défense ou même Matuziwa dans un milieu à 3 et Alidou Seydou au poste de latéral droit. Pour le moment, moi Guéladoué est large devant quoi. Enfin, il y a même pas débat. Y a, que ce soit techniquement, dans le placement défensif, offensivement, il sert pas à grand chose.
C'est doux parce qu'on lui met un poste qu'il a pas forcément beaucoup utilisé et beaucoup fréquenté sur ces dernières années. Mais enfin voilà, c'est pas un pur latéral droit. Par contre, c'est Matuziwa. Donc moi, je tombe des nues de voir le niveau de Matuziwa que effectivement j'ai vu plutôt flamboyant et rayonnant au milieu de Reims, qui était un pilier de cette équipe et qui n'élève pas son niveau à Rennes, non, clairement.
Mais on a quand même recruté, quelqu'un me faisait remarquer qu'on a recruté cet an dernier, que des défenseurs qui sont habitués à jouer à 3 derrière. C'est où ? C'est Seydou et c'est Théâtre, même aussi sur une autre... Alors Théâtre a mis du temps.
C'est vrai, mais c'est un postulat de la direction sportive aussi, c'est de se dire que les défenseurs sont adaptables à une défense à 3 ou à une défense à 2.
C'est leur vision des choses.
Disait lui-même que c'est plus facile de s'adapter, de passer de 2 à 3 que de 3 à 2. Il l'a dit il y a 15 jours en conférence de presse, parce que des fois on parle football en conférence de presse, pas que psychologie.
Oui, mais en attendant, on y revient sans cesse. Et alors je sais qu'il y a des supporters qui voudraient qu'on en parle tout le temps. Mercato raté, ambition en berne.
Mais ça ne sert plus à rien maintenant de le dire. Il faut juste attendre la fin de la saison, parce que Rennes va aller en fin de saison avec ses recrues qui n'apportent pas grand-chose, quand même, globalement, sur les derniers mercato. Oui,
parce que c'était des recrues. Alors, vous parlez des recrues hivernales.
De toutes.
D'accord. Parce que les recrues hivernales, c'est des recrues de remplacement, de toute façon. Vous prenez Alidou Sédou parce que Lorenzo Signon. Enfin, non, vous le prenez, non. Puis Lorenzo Signon s'en va. Et puis Matuzzi, c'est plus un remplacement d'Emania Matic. Donc finalement.
Ouais, mais on voit bien que Lyon a recruté différemment cet hiver et va mieux.
Oui, alors si toutes les équipes de Ligue 1 ont le droit de recruter comme Lyon, ce ne sera pas la même Ligue 1 aussi.
Ah, hein. Mais c'est Lyon, monsieur.
Mais peu importe.
Il faut que Lyon soit tout en haut.
Non, mais c'est super. Sinon, super c'est comptable, pas mal, à mon avis. Mais,
et puis, il faut quand même dire un mot, quand même, on en a parlé, mais Bourigeaud, parce qu'on a souvent dit que Bourigeaud était incroyable. Là...
Moi, je n'ai jamais dit ça.
Vous prenez ce que j'ai dit.
Le rat, le con, quitte le navire.
Non, je vais vous dire. Bourigeaud, pour moi, il a toujours un problème à certains moments de dosage. Il ne sait pas doser ses ballons. De temps en temps, il fait un très beau coup franc. De temps en temps, il fait un très beau corner. Mais regardez, depuis trois matchs, là, il ne dose absolument rien. Et puis ses passes, regardez ses passes à l'adversaire. Il y a un nombre considérable. Or, c'est un mythe ici à Rennes, Bourigeaud. Hein, bon, c'est un très bon joueur de club. Il paye de sa personne physiquement. Il fait ses 12 km par match. Il a la rage. Il termine en sueur. Et il a un discours devant les médias à la fin du match, très lénifiant, du style, c'était bien.
C'est dur.
Eh oui, on va y aller, on va remettre ça. Rien n'est perdu. De temps en temps, il glisse un petit. Oui, je suis aussi coupable, j'ai raté un geste, mais c'est vrai, c'est pas ce... Mais il en rate énormément.
Oui, mais...
Il faut le dire. Bourigeaud, depuis trois matchs, il ne rend pas service au Stade Rennais depuis trois matchs.
D'accord, on est d'accord.
Ok, sur la dernière phrase, oui, sinon je suis profondément pas d'accord. C'est plus. Après, il est à l'image de cette équipe, franchement.
Il fait la moins bonne saison depuis son arrivée à Rennes, c'est sa moins bonne saison.
Il fait une première partie de saison, ouais, mais c'est ça le paradoxe. Il fait une première partie de saison qui est catastrophique, il fait deux mois fantastiques, oui. Et il fait a priori une semaine pourrie, là, récemment.
Et il est baromètre de l'équipe,
ça l'empêche pas dans le paradoxe de. Je crois que c'est son plus haut total de buts de liste de sa carrière.
Ouais. Et il était le joueur avant la trêve, un des joueurs européens les plus décisifs, c'est ça, entre les passes D et les buts. Il met un triplé contre le Milan AC et moi je suis pas d'accord avec Guillaume qui est souvent à cette place en disant que Milan AC est venu en tongs à Rennes, absolument pas. Donc c'était quand même un grand match de foot. Il faut arrêter. Bourigeaud c'est sans doute le plus grand joueur de l'histoire de Rennes.
Je suis pas d'accord.
Statistiquement parlant, on verra, on fera les comptes.
On verra qu'on en reparlera dans 10 ans.
Statistiquement, on aura un statut à côté de Jean Prouf qui est le plus grand entraîneur de Rennes.
Moi je pense que Bourigeaud, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire de ça.
Et je pense que beaucoup de supporters pensent pareil.
Mais moi, quand je parle de ça, évidemment, je suis d'accord avec Pierre. C'est pas des frais, etc. Enfin voilà, c'est pas des joueurs qui sont un peu spectaculaires, mais c'est des marques. Ils ont un nombre de matchs, régularité. Ils ont gagné des titres. Il a passe décisif, but pour un milieu de terrain. Je suis désolé, il a des stats de dingue.
C'est ça aussi, pleine lucarne, du débat. Il n'y aura pas de débat en tout cas sur la toute dernière question que je vais vous poser. Qui n'est pas vraiment une question.
Vous allez nous dire que la victoire est obligatoire contre Toulouse.
Toute autre chose qu'une victoire contre Toulouse est une catastrophe, messieurs.
Catastrophe.
Non. Ah bah oui.
Oui, catastrophe.
Non, je pense que c'est un cataclysme.
Mais c'est... Oui.
Toulouse ou tout perd. Très bon, très bon.
Oui.
Non, mais oui. Match à domicile contre une équipe qui est en bas, oui.
Vous êtes obligés. Ils sont en bas. Samedi soir pour se relancer avec l'ambiance.
Ils sont quand même pas...
Ouais, ils sont au milieu, ils sont à peu près assurés. Ouais. Ils ont des joueurs comme Dalinga, ça joue un peu au foot quand même. Ils vont pas jouer bloc bas, eux.
Bah, on sait pas.
Pourtant, ils devraient faire ça, puisque les dernières victoires, c'est Lorient ici, et ils ont bien ici leur coup. Voilà.
C'est pas dans leur état d'esprit d'Ata, là, un peu.
Et il faudrait pourtant qu'ils accrochent une place européenne, même la 7e, si Paris Saint-Germain vient à gagner la Coupe de France.
Mais oui, vous avez raison, Pierre, j'entends des gens dire attendez, ça serait aussi bien, finalement, qu'on soit pas européen, qu'on remette tout à plat. Comment on peut tenir ce discours-là ?
On joue en Ligue 2 aussi.
Le constat d'aujourd'hui, c'est que la saison par rapport à l'objectif est raté, quasi
oui,
raté,
c'est raté,
et que là, on est dans un objectif de sauver la saison. Et sauver la saison, c'est finir 6 ou 7, effectivement.
Pierre.
Parce que ça fait 6 ans que le coach est habitué à gérer une équipe avec un vestiaire dans un contexte européen. C'est beaucoup plus facile pour lui quand vous jouez l'Europe, même
avec des matchs tous les 3 jours. Oui.
Voilà, pour concerner tout votre effectif. Parce qu'autrement, ne gérer qu'un effectif de championnat Coupe de France, c'est pas la même musique.
Attention, très vite, il reste 30 secondes. Votre pronostic pour le match entre Rennes et Toulouse, Thomas Rassouli.
3-1 pour Rennes.
Une victoire rennaise, 3-1. Christophe.
3-0.
Ça va encore être mieux. 3-0, Pierre.
2-0.
2-0, je l'aurais parié. Laurent.
Ouais, 2-0, allez.
Ouais, ok. Et moi, je vais dire 1-0. Voilà, tout le monde voit Rennes gagnant, c'est mauvais signe, mais en même temps, c'est enthousiasmant.
Clément
Gavard va pronostiquer un match nul. On vous souhaite une excellente semaine, on se retrouvera lundi prochain pour débriefer ce Rennes-Toulouse. Portez-vous bien et allez Rennes, bien sûr.
D'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie, fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.